Un journal présenté ce soir par Olivier Vogel. Bonsoir Olivier.
Bonsoir. La chasse aux passoires thermiques ou aux terrasses chauffées, les premières mesures post-convention citoyenne pour le climat ont été annoncées ce matin à l'issue d'un conseil de défense écologique qui s'est tenu à l'Élysée. Explication de Véronique Robérotte.
Il avait comparé les forces de l'ordre qui traquent les migrants aux gendarmes et policiers impliqués dans la rafle du Veldiv. Patrick Chemovitch, le maire Europe Écologie Les Verts de Colombes, regrette que son propos ait pu porter à confusion. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, envisage, lui, de porter plainte. Explication de Maxime Fayol.
Est-ce qu'une ancienne chroniqueuse télé peut être à la fois ministre de la Culture et de l'Audiovisuel? C'est la question que l'on peut se poser au sujet de Roselyne Bachelot, car il n'y a pas de secrétaire d'État à l'audiovisuel. Benoît Grossin nous en dira plus.
Le coronavirus reprend du poil de la bête dans plusieurs pays. À Hong Kong, un hôpital de campagne doit être installé et de nouvelles mesures de distanciation prises. Précision de notre correspondante Florence Dechangy.
La mort d'un pionnier de la mode au Japon, Kansai Yamamoto. Il était entre autres connu pour ses collaborations avec David Bowie, nous expliquera Karine Nishimura. Après les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, les premières mesures réglementaires ont été annoncées à l'issue d'un conseil de défense écologique qui s'est tenu ce matin à l'Élysée. Et ces mesures, Véronique Robérotte, pourraient être rapidement mises en place, notamment la fin des terrasses chauffées ou des passoires thermiques, car les bâtiments pas ou mal isolés représentent en France 20% de nos émissions de gaz à effet de serre.
La chasse aux passoires thermiques est ouverte. Ces logements tellement mal isolés qu'ils en deviennent impossibles à chauffer. Au 1er janvier 2023, louer un de ces logements ne sera plus possible. Emmanuel Wargon, ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique.
Demain, pour être décent, un logement devra être bien isolé, bien chauffé. Ça permettra aux personnes qui vivent dans des passoires thermiques qui sont vraiment indécentes, avec des coûts de chauffage qui parfois peuvent atteindre jusqu'à 1 000 euros par mois, d'exiger du propriétaire de faire des travaux, voire de soumettre le dossier au juge qui pourra décider de geler le loyer ou d'interdire la location du logement. Et ça concerne environ 120 000 logements locatifs en France aujourd'hui.
Autre annonce effective, celle-ci en 2022, l'interdiction des terrasses chauffées après l'hiver prochain, conformément au souhait de la Convention citoyenne pour le climat. L'interdiction aussi pour des boutiques de laisser leurs portes grandes ouvertes tout en chauffant ou en climatisant. Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique.
Il s'agit de mettre fin à des pratiques qui constituent des aberrations écologiques. On ne peut pas, pour le simple confort de ne pas avoir à ouvrir la porte d'un magasin, climatiser la rue en plein été lorsqu'il fait 30 degrés. Et on ne peut pas non plus chauffer à plein régime des terrasses en plein hiver lorsqu'il fait 0 degré pour le simple plaisir de boire son café en terrasse en ayant chaud. Les restaurateurs ont souffert de la crise du Covid et donc nous allons les voir pour leur permettre de s'organiser et donc nous rendrons ces mesures obligatoires à la fin de l'hiver prochain pour éviter que ça pèse trop fortement sur eux dans un premier temps.
L'aide aux ménages pour la rénovation thermique va être renforcée. De 800 millions cette année, elle passera à 2 milliards d'euros l'an prochain.
Véronique Robérotte, le gouvernement a par ailleurs confirmé la création de deux nouveaux parcs régionaux, celui du Mont Ventoux et de la baie de Somme-Picardie-Maritime. S'y ajoute une réserve naturelle nationale dans la forêt de la Robertsau, à côté de Strasbourg. Le projet de loi bioéthique revient à partir d'aujourd'hui en deuxième lecture devant l'Assemblée nationale. Les débats ont démarré il y a 2 heures et sont partis pour la semaine. Il est question d'ouvrir la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, les couples de femmes et les célibataires. Actuellement, seuls les couples hétérosexuels y ont accès. Pour les associations LGBT, le texte ne va pas assez loin. Pour la Manif pour tous et d'autres associations rassemblées cet après-midi devant le Palais Bourbon, c'est beaucoup trop. Le chômage à la baisse en France au mois de juin, moins 4,6% en catégorie A. Les personnes qui n'exercent aucune activité, une baisse qui s'explique par la reprise d'une activité réduite post-confinement. Ça n'empêche pas le chômage de rester à un niveau très élevé avec un bond de 24,5% au deuxième trimestre de cette année par rapport au trimestre précédent. 815 000 inscrits supplémentaires, ce qui porte le nombre de demandeurs d'emploi à 4 149 300 en catégorie A au deuxième trimestre. Pas question de laisser l'agneau mourir à petit feu, déclaration d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'industrie, était en visite cet après-midi dans l'usine Nokia qui a prévu de faire une croix sur 400 postes, plus de la moitié des effectifs de l'usine des Côtes d'Armor. Elle y a rencontré syndicats et représentants du personnel qui craignent une disparition de l'usine. Le fabricant de téléphonie mobile a prévu de supprimer au total plus de 1200 postes en France. Agnès Pannier-Runacher qui a par ailleurs indiqué que le gouvernement français avait demandé une contre-expertise sur le projet de vente par Daimler de son usine de Hambach à côté de Sarreguemines en Moselle, une usine qui produit la Smart. 1600 personnes sont employées sur le site que le constructeur allemand souhaite revendre à un fabricant de 4x4 à essence. Séance de rétropédalage à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, Patrick Chemovitch, le maire Europe Écologie Les Verts, avait comparé les forces de l'ordre qui traquent les migrants aux gendarmes impliqués dans la rafle du Veldiv. Bonsoir, Maxime Fayolle.
Bonsoir.
Ces propos n'ont pas plu au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui envisage de porter plainte contre Patrick Chemovitch, lequel a regretté aujourd'hui que son propos ait pu prêter à confusion.
Oui, l'élu explique qu'il a voulu profiter de ce moment commémoratif pour interpeller la conscience citoyenne sur la question des migrants et des sans-papiers, des hommes et des femmes refoulés de plusieurs pays d'Europe, dont la France, en raison de leur origine. Il a tenu toutefois à réaffirmer son attachement aux forces de l'ordre chez nos confrères de France Info.
Il n'y avait pas de comparaison entre la police de l'époque de Pétain qui participait à l'extermination des Juifs et puis la police et la gendarmerie d'ailleurs d'aujourd'hui dans un État démocratique qui fait respecter une loi d'un État démocratique. Il n'y a pas de comparaison.
Alors pourquoi un tel revirement ? Du côté de la mairie, on explique d'une part qu'on a besoin de Gérald Darmanin pour remplir certaines promesses électorales et notamment un nouveau commissariat. L'idée n'est pas de se brouiller avec lui, souligne-t-on dans l'entourage du maire. Un entourage qui regrette que ses propos deviennent une affaire d'État, une façon de parler d'autre chose que des problèmes du ministre. Une allusion aux accusations de viol dont Gérald Darmanin est la cible. Après ces regrets du maire, la polémique pourrait se terminer par une invitation du ministre à Colombes à la rentrée de septembre.
Merci Maxime Fayolle. C'est finalement hier soir que les secrétaires d'État sont sortis du chapeau. Ils sont 11, de la ruralité à la biodiversité en passant par l'éducation prioritaire ou les affaires européennes, mais rien du tout à l'audiovisuel. Il en avait pourtant été question après la nomination de Roselyne Bachelot au ministère de la Culture. Mais comment l'ancienne chroniqueuse de télé va-t-elle pouvoir s'occuper d'audiovisuel en toute neutralité? C'est la question que l'on peut se poser. Benoît Grossin.
Sa très bonne connaissance du secteur de l'audiovisuel est plutôt considérée comme un avantage dans les rangs de la majorité. Pour Bruno Studer, le député LREM, président de la commission des affaires culturelles à l'Assemblée nationale, ce qui pose surtout problème, c'est la distorsion de concurrence avec des acteurs étrangers, américains en particulier, qui s'affranchissent des règles.
Il s'agit surtout d'adaptations législatives dont il est question aujourd'hui pour mettre justement les acteurs français à égalité avec ceux qui ont beaucoup profité de la crise, comme les plateformes de vidéos en ligne, type Netflix ou Disney. C'est pour cela qu'il faut absolument transposer les textes européens le plus vite possible. C'est en cours. Donc je ne pense vraiment pas qu'on puisse craindre de la part de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, un quelconque conflit d'intérêts. Le vrai secteur sinistré, quand on parle de la culture aujourd'hui par la crise du Covid, bien plus que l'audiovisuel, c'est le spectacle vivant, effectivement. Et c'est, je crois, la priorité de la ministre, et c'est heureux qu'il en soit ainsi.
L'audiovisuel ne serait donc pas la priorité de Roselyne Bachelot, et pour cause. Selon le vice-président du Sénat, le socialiste David Assouline, c'est l'Élysée qui s'en charge.
France 4, tout le monde est d'accord qu'il ne faut pas fermer. Quand on parle avec la patronne de l'audiovisuel public, elle l'a proposé dans son projet de ne pas fermer. Quand on interroge Roselyne Bachelot, elle nous dit la décision va venir dans quelques jours, c'était il y a quand même au moins 2 semaines. On nous fait comprendre à chaque fois qu'on attend la décision de l'Élysée. Donc si c'est comme ça avec tout le reste, oui, le secrétariat d'État à l'audiovisuel qui était attendu par certains se situe aujourd'hui à l'Élysée.
Emmanuel Macron prendra-t-il une nouvelle fois conseil auprès d'un expert à l'Élysée, le secrétaire général Alexis Colère, l'ancien administrateur de France Télévisions qui a orchestré la réforme de l'audiovisuel public inaboutie en raison notamment de la pandémie.
Le coronavirus reprend du poil de la bête dans plusieurs pays. En Belgique, où l'augmentation des cas de Covid a été qualifiée d'inquiétante, notamment dans la province d'Anvers. Record de nouveaux cas également en Australie, 549 en 24 heures, ou en Chine continentale. À Hong Kong, cela fait presque une semaine que l'on enregistre plus d'une centaine de nouveaux cas de Covid-19 par jour. La capacité d'accueil en isolement des hôpitaux est saturée. Le gouvernement vient d'annoncer la mise en place d'un hôpital de campagne, ainsi que de nouvelles mesures de distanciation sociale les plus strictes depuis le début de la crise qui a démarré fin janvier. À Hong Kong, les précisions de notre correspondante Florence de Changy.
Le secrétaire en chef de Hong Kong, le numéro 2 du territoire, Matthew Chung, a estimé cet après-midi la situation sanitaire extrêmement inquiétante. À partir de mercredi, les restaurants ne pourront plus offrir que des plats à emporter. La taille des rassemblements autorisés va passer de 4 à 2 personnes seulement, à l'exception des gens d'une même famille. Et le port du masque, que la population a adopté de longue date, sera désormais obligatoire, officiellement, tant dehors que dans les lieux clos. Il ne sera permis de se démasquer que pour boire, manger ou prendre un médicament, mais pas pour fumer, au risque d'une amende de près de 200 euros. Le Covid-19 n'a encore causé que 20 décès à Hong Kong depuis le premier mort en février pour une population d'environ 7 millions d'habitants, mais le dernier foyer d'infection le plus virulent actuel a montré que c'est en famille et parmi les contacts immédiats que le virus se propage le plus vite.
Florence de Changy à Hong Kong. Dans la course au vaccin anti-Covid, les regards se portent sur les États-Unis avec le début aujourd'hui d'une phase de test à grande échelle chez Moderna, une entreprise de biotechnologie. 30 000 personnes y participent. Le développement de ce traitement parmi d'autres est financé par les autorités américaines qui viennent de doubler leur investissement à près $1 milliard pour soutenir les essais de Moderna. Et cette phase 3 est la dernière avant une éventuelle mise sur le marché de ce vaccin, élaboré en un temps record et donc à prendre avec des pincettes. Les explications à New York de Loïc Loury.
30 000 participants dans 89 sites répartis sur le territoire américain, voilà l'ampleur des essais cliniques qui débutent aujourd'hui pour le vaccin Moderna. Au cours de ces tests, la moitié des patients recevront deux doses vaccinales à 4 semaines d'intervalle, l'autre moitié un simple placebo. Objectif, documenter d'éventuels effets secondaires et surtout l'efficacité du vaccin. Peut-il prévenir la contamination au Covid ou simplement empêcher l'apparition de symptômes graves? Lors de tests précédents, le vaccin expérimental de Moderna a bien stimulé une forte réponse immunitaire chez les patients. Encore faut-il que celle-ci soit suffisante pour combattre le virus. Et attention aux espoirs déçus, car derrière ces essais à marche forcée et la communication optimiste de Moderna, il y a une compétition féroce entre les laboratoires. Près de 200 vaccins sont en cours de développement et d'énormes enjeux financiers sans véritable garantie. Moderna, malgré tout, assure pouvoir fabriquer un demi-milliard de doses dès l'an prochain. La biotechnologie employée par l'entreprise pourtant n'a encore jamais fait ses preuves et un vaccin surtout n'a jamais, au cours de l'histoire, été développé aussi vite.
Loïc Loury. Dans l'est de l'Ukraine, un nouveau cessez-le-feu est entré en vigueur ce matin entre forces ukrainiennes et rebelles pro-russes. La trêve, censée être illimitée, a pris effet dans la république autoproclamée du Donetsk, l'un des deux territoires séparatistes du Donbass, où des heures armées avaient repris il y a quelques jours. Les accords de paix de Minsk en 2015 prévoient l'instauration d'une cessation des hostilités durables comme condition nécessaire à une solution négociée du conflit. En 6 ans, il a fait 13 000 morts et provoqué l'exode d'1,5 million de personnes. Il était considéré comme un pionnier de la mode au Japon et ailleurs. Le créateur Kansai Yamamoto a succombé à une leucémie. Il était âgé de 76 ans. Il était entre autres connu pour ses collaborations avec David Bowie, dont il avait imaginé une série de tenues avant-gardistes pour Ziggy Stardust, l'alter ego du chanteur. Explication à Tokyo de Karine Nishimura.
Énergique, excentrique, multicolore sont les adjectifs qui qualifient le mieux Kansai Yamamoto, à l'opposé presque de son homonyme et autre grande figure de la mode, Yoji Yamamoto. Les 50 ans de carrière de Kansai, styliste qui a fait ses classes chez son aîné Junko Koshino, ne se résument pas à ses tenues les plus connues, celles qu'il a créées pour David Bowie, Stevie Wonder ou Elton John. Kansai Yamamoto, inspiré par l'extravagance du théâtre kabuki ou les formes des idéogrammes japonais, était aussi l'homme des grands événements scéniques, de la place rouge de Moscou en 1993 à la ville japonaise de Soma en 2011, meurtrie par le tsunami du 11 mars et l'accident de Fukushima. Kansai Yamamoto avait une devise, l'énergie de l'homme est sans limite, un leitmotiv qu'il mettait depuis plusieurs années au service d'une série de spectacles intitulée « Un Japon en pleine forme ». Même si c'est d'abord à l'étranger, à Londres, que sa carrière a commencé il y a près de 50 ans, il est resté plus que tout attaché à son pays, ses légendes, ses arts et sa culture. Et son ultime but était, disait-il, le partage de ses valeurs.
La météo demain, peu de nuages, de plus en plus de chaleur, température maxi de 27 à Lille, à 37 à Toulouse. Vous écoutez France Culture, il est 18h15.